Bonjour à tous, frères et sœurs qui partagent la même espérance. Aujourd'hui, nous voulons contempler un sujet, encore une fois, d'une extrême importance et qui a directement trait à notre expérience sous le message du troisième ange. Depuis 1798, nous vivons au temps de la fin. Depuis 1844, lorsque Jésus est passé dans le lieu très saint, nous avons été Nous avons vécu dans l'œuvre du scellement. Et aujourd'hui, près d'un siècle et demi depuis ce moment-là, Jésus n'est pas encore revenu. Mais les choses qui nous ont été déclarées maintes fois, dans l'esprit de prophétie, les écrits d'Ellen G. White sont encore plus vrais aujourd'hui, à savoir que la venue du Seigneur est proche. Et c'est aussi en notre devoir et notre privilège d'hâter son retour. Il y a une expérience toute particulière au peuple de Dieu qui croit au message des trois anges en ces temps-ci. Et c'est une expérience que l'on doit comprendre pour qu'on puisse la discerner dans notre expérience personnelle. Parce qu'autrement, on se trouve sans point de repère et on serait tenté de croire que ce n'est pas normal. Dans la Bible, dans le livre de Daniel, chapitre 12, au verset 1, nous lisons. Après l'événement du chapitre 11, verset 45, il est écrit « En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. » Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera. Savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Ce qui nous est montré ici dans ces paroles de Daniel, c'est l'arrivée, le commencement, le tout début du temps de détresse de Jacob. On l'appelle le temps de détresse de Jacob parce qu'il est semblable, terriblement semblable, à l'expérience que fit Jacob lorsqu'il attendait la venue de son frère si redouté, Ésaü. Et ce temps de détresse, il nous est défini davantage à nombreuses reprises dans la parole de Dieu, et notamment dans Jérémie, chapitre 30, versets 5 à 7. Nous lisons. Car ainsi a dit l'Éternel, nous entendons des cris d'effroi, c'est l'épouvante, et il n'y a point de paix. Informez-vous et voyez si un mal enfante. Pourquoi vois-je tout homme les mains sur les reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus livides? Hélas, c'est que cette journée est grande et qu'il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps de détresse pour Jacob. Pourtant, il en sera délivré. Ce temps de détresse, dont le commencement nous est défini, décrit dans Daniel chapitre 12, verset 1, c'est le temps des sept dernières plaies. C'est un moment qui arrive juste après la fin du temps de grâce, de ce temps où nous avons encore la possibilité, en tant qu'être humain, de trouver le pardon et la justification qui est en Jésus-Christ. Mais maintenant, il y a quelque chose de très intéressant dans les écrits de l'esprit de prophétie qui nous montre que ce temps de détresse se voit annoncé, préparé, introduit au préalable par un début, un commencement de ce temps de détresse. Et c'est ce que on trouve dans le livre Premiers Écrits, à la page 85. Premiers Écrits, page 85, paragraphe 2 et 3. Elle dit, « Je vis que Dieu avait des enfants qui ne connaissaient pas encore le sabbat et, par conséquent, ne l'observaient pas. Ils n'avaient pas rejeté la lumière à cet égard et au commencement du temps de détresse, nous étions remplis du Saint-Esprit alors que nous partions ensemble proclamer la vérité du sabbat. » Le paragraphe qui suit, qui vient expliquer le paragraphe précédent, elle nous dit « Cette vision me fut donnée en 1847, alors que quelques adventistes seulement observaient le sabbat, et parmi ceux-ci peut supposer que cela suffisait pour tracer une ligne de démarcation entre le peuple de Dieu et les incroyants. » Et là, le plus important arrive. « Aujourd'hui, on peut voir le début de l'accomplissement de cette vision. Le commencement du temps de détresse, entre guillemets, ici mentionné, n'est pas le moment où les plaies seront versées sur la terre. Mais une courte période qui les précède, durant laquelle Jésus est dans le sanctuaire. Donc l'esprit de prophétie nous déclare ici que le temps de détresse de Jacob ne vient pas exclusivement après le temps de grâce, mais qu'il est précédé par un commencement du temps de détresse, qui sont exactement les mots employés par l'esprit de prophétie. Le commencement du temps de détresse ici mentionné n'est pas le moment où les plaies seront versées sur la terre, mais c'est une courte période qui précède ces plaies. Et donc, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous sommes amenés à conclure que l'expérience d'agonie de Jacob sera celle du peuple de Dieu même avant l'arrivée de la clôture du temps de grâce. Et dans Malachie, le livre de Malachie, au chapitre 3, nous voyons cela présenté à nous encore sous un autre angle. Dans Malachie chapitre 3, verset 2. Et qui pourra soutenir le jour de sa venue? Et qui pourra subsister quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur et comme la potasse des foulons. Il sera assis, fondant et purifiant l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme on affine l'or et l'argent. Et ils seront à l'Éternel et ils présenteront des offrandes dans la justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux jours anciens et comme aux années d'autrefois. Donc, pendant ce commencement du temps de détresse, nous voyons que le Seigneur, celui qui est le purificateur, Jésus, qui est dans le sanctuaire, sera comme le feu du fondeur et comme la potasse des foulons. Et que dans cette œuvre, pendant ce commencement du temps de détresse, il sera là à fondre et à purifier l'argent, à purifier les fils de Lévi et les affiner comme on affine l'or et l'argent. Il est là à purifier le peuple de Dieu, afin que, à la fin, l'offrande des enfants de Dieu soit enfin et pour toujours agréable à l'Éternel. Donc cela fait partie de l'expérience. Mais ce n'est pas tout. Au même moment que cette purification a lieu dans nos cœurs, si nous coopérons avec Dieu et l'œuvre qu'il prévoit pour nous en Christ, où il sonde nos cœurs, où il éprouve nos pensées, nos desseins, nos croyances, alors que tout cela a lieu et que cette purification chauffe, et qu'elle brûle, et qu'elle identifie les choses qui ne vont pas dans ma vie, les plans qui sont contraires aux plans certains de Dieu, il y a une expérience parallèle que j'aimerais adresser maintenant. Elle nous est écrite dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 2, au verset 14. Et donc, si nous sommes là, et que nous persistons dans cette œuvre de purification, que nous ne disons pas à Jésus, arrête de me purifier, mais que nous disons, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté soit faite, et que nous nous offrons en lui comme une offrande, pour lui être agréable, comme Enoch était agréable à Dieu. Si nous faisons cela, que nous livrons nos cœurs à lui, que nous mourrons à l'homme charnel, l'homme ancien, il y a aussi cette expérience qui se révèle à nos cœurs. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Or, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Car nous sommes la bonne odeur de Christ devant Dieu pour ceux qui sont sauvés et pour ceux qui périssent. À ceux-ci, une odeur mortelle donnant la mort, et à ceux-là, une odeur vivifiante donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme beaucoup le font, mais nous parlons avec sincérité, comme de la part de Dieu, devant Dieu, en Christ. L'apôtre Paul nous définit ici quel doit être notre témoignage à l'égard des croyants ou des incroyants. Quelle que soit la personne visée, il nous appelle, si nous sommes triomphants en Christ, à nous offrir comme une odeur agréable à Dieu et aux hommes, qu'ils périssent ou qu'ils soient sauvés, quel que soit leur motif, leur réaction, nous sommes appelés à être une odeur vivifiante autant que nous le pouvons. À être, si nous triomphons en Christ, la bonne odeur de Christ devant Dieu pour tous. À ne point falsifier la parole de Dieu, à ne point amener mes propres idées, mais à parler avec toute la sincérité qui m'est donnée de Dieu, en harmonie avec le cœur brisé qu'il me donne, et à manifester cette sincérité, cet amour de Dieu, comme de la part de Dieu, devant Dieu, en Christ. C'est notre appel. Et face à cet appel, maintenant, il nous faut prendre en compte d'autres choses pour comprendre l'amertume qui va inévitablement se dégager de notre expérience si nous offrons nos cœurs à Dieu pour être cette odeur de vie, donnant la vie à ceux qui nous entourent. Nous allons pour cela dans Matthieu, chapitre 24. Dans Matthieu, chapitre 24, au verset 12. Et là, le Seigneur Jésus nous trace, sans équivoque, la condition du monde, la condition morale du monde en ce temps de la fin auquel nous vivons et plus particulièrement à la fin de ce temps de la fin qui est la période en laquelle nous vivons aujourd'hui même en 2018. Il dit « Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité, l'amour de plusieurs se refroidira. » Nous vivons à cette époque, frères et sœurs. Nous aimons l'avancée technologique, les portables, les voitures, les avions, tous les moyens de communication disponibles. Et pourtant, nous oublions si facilement que toutes ces choses existent dans un monde où l'iniquité est multipliée. Et l'iniquité est multipliée d'une telle manière que l'amour divin que Jésus a planté dans le cœur du croyant chez beaucoup se refroidit. Mais pas pour aucune raison. C'est parce que l'iniquité est tellement multipliée que le croyant perd son courage, perd son entrain et il fait des compromis. Et donc, l'odeur que nous sommes appelés à être à Dieu et pour les hommes se voit elle-même compromise à cause de cela. Mais pas seulement cela. Parce que le témoignage que nous cherchons et que nous voulons avoir envers les âmes qui périssent, les âmes sincères et qui périssent, se voit mis dans une telle difficulté que notre cœur crie à Dieu. L'apôtre Paul nous donne un exemple de ce cri que lui-même avait pour les siens. Nous le lisons dans Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, verset 1 à 3. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, et ma conscience me rend ce témoignage par le Saint-Esprit, que j'ai une grande tristesse et un continuel tourment dans le cœur, car je désirerais moi-même d'être anathème, loin de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. C'était le cri de l'apôtre. Il souffrait en son cœur parce qu'il voulait, non pas d'un point de vue légaliste, non pas d'un point de vue sentimental, il voulait, du plus profond de son cœur converti à Dieu, la conversion du cœur de ses confrères, ses amis, selon la chair. Et tout de suite, si vous examinez, frères et sœurs, nous voyons que le véritable évangile, la vie de l'évangile qui nous a été communiqué par la parole, n'a rien à voir avec ce que nous avons l'habitude de voir aujourd'hui dans les églises. C'est un constat qu'on ne peut s'empêcher de faire. Et même dans les milieux adventistes, c'est triste de le dire. Mais nous poursuivons et nous regardons cette expérience de témoignage qui, à tous les carrefours, semble si compromise et dans laquelle nous nous retrouvons confrontés à de tels obstacles. Nous le lisons dans Lamentations, chapitre 3. Lamentations, chapitre 3, verset 48. Mon œil se fond en ruisseaux d'eau à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mon œil pleure et ne cesse point parce qu'il n'y a point de relâche. Jusqu'à ce que l'Éternel regarde et qu'il voit des cieux. Le prophète Jérémie connaissait au plus profond de son cœur ce que c'était que de travailler, de mettre tous ses efforts pour le salut de ses compatriotes et pourtant selon toutes ces conclusions visibles, de se retrouver à chaque fois face à des échecs amers. Et il dit, mon œil se fond en ruisseau d'eau, mon œil pleure et ne cesse point. Et la raison pour laquelle nous voulons examiner ces choses, ce n'est pas pour se morfondre, c'est pour voir que nous ne soyons pas surpris quand ces choses nous saisissent et que nous voulons pleurer et que nous croyons que nous sommes abandonnés parce que cette expérience ne semble pas normale. Ce n'est pas normal. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Et malheureusement, le croyant qui va hebdomadairement dans une église adventiste qui est endormie, ne peut qu'être dans la confusion totale si lui se retrouve confronté à cette expérience pendant que le reste de ceux qui croient être ses frères et sœurs sont dans une apathie complète. C'est pour ça, frères et sœurs, qu'il nous faut examiner attentivement la parole pour savoir si réellement l'expérience que nous sommes en train de faire est conforme à la parole de Dieu. Et si elle l'est, et que nous avons l'impression qu'elle ne l'est pas parce que celle des croyants autour de nous est contraire à celle qui est écrite, nous ne devrions pas nous méprendre. Mais Dieu veut nous donner la consolation et la véritable expérience qui est celle des enfants de Dieu en ces derniers jours. Nous poursuivons dans le psaume 56. Le psaume 56, verset 9. Et voilà, nous luttons, nous cherchons, nous prions, nous crions à l'Éternel. Seigneur, où es-tu? Les âmes pour lesquelles mon âme souffre, que feras-tu, Seigneur? Et là, le psalmiste dit, tu comptes mes allées et mes venues. Mets mes larmes dans tes vaisseaux. Ne sont-elles pas dans ton livre? Nous crions à lui, Disons, Seigneur, mes larmes, inscris-les, je te prie, Seigneur, et exauce ma requête, et aide-moi à sauver, par ta grâce, les âmes de ceux qui périssent sans toi, et les âmes de ceux qui croient te connaître, mais qui sont trompés par les pasteurs infidèles. Seigneur, entends ma prière, ô mon Père. Et dans cette expérience, il y en a un qui comprend, parce qu'il a fait exactement la même expérience. C'est ce que nous lisons dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe, au chapitre 49. Ésaïe, chapitre 49, verset 3, verset 2 à 5. Et là, Jésus s'exprime. Il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë et m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, j'ai travaillé en vain, j'ai consumé ma force inutilement et sans fruit. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et mon salaire auprès de mon Dieu. Et maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour amener à lui Jacob. Quoi qu'Israël ne soit point rassemblé, je serai honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu sera ma force. Pour Jésus, il n'y avait pas de lumière glorieuse. À la croix, les seuls fruits apparents, réels de son ministère, c'était le voleur. Et donc, quand vous sentez au-dedans de vous que personne ne semble sensible aujourd'hui, alors, vous entendez sa voix, j'ai travaillé en vain, j'ai consumé ma force inutilement et sans fruit. Mais, quoi qu'Israël ne soit pas rassemblé, je serai honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu sera ma force. C'est impératif pour nous de comprendre exactement la douleur et la signification de la douleur de Jésus-Christ qui nous est ici tracée. Parce que autrement, nous sommes en danger de croire que pour mener à la conversion des incroyants ou de ceux qui croient, il nous faut compromettre l'évangile éternel. Ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Je répète, ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Il nous appelle à nous conformer au modèle divin qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'avait pas de victoire missionnaire. selon toute sa vision charnelle, il ne voyait pas de victoire missionnaire. Frères et sœurs, prenons cela au sérieux. Nous entendons parler aujourd'hui de campagne d'évangélisation et on se glorifie lorsqu'on entend parler de dizaines ou de centaines de baptêmes. J'ai bien peur que cela ne soit pas le travail missionnaire biblique. Nous ne pouvons juger les cœurs, mais il semble, à la simple comparaison de l'expérience de Jésus-Christ, que plus il y a d'apparentes conversions, plus il y a à s'interroger. Le Seigneur Jésus-Christ a dit : j'ai travaillé en vain, j'ai consommé ma force inutilement et sans fruit, mais mon droit est auprès de l'Éternel et mon salaire auprès de mon Dieu. Et quoi qu'Israël ne soit pas rassemblé, quoi qu'il n'en vienne pas, quoi qu'il ne réponde pas à la voix de mon Dieu, je serai honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu sera ma force. Non pas mes conversions, non pas tous les baptêmes pour lesquels j'ai été un instrument, non. Mon Dieu sera ma force, mon soutien, mon assurance, ma certitude, ma forteresse et mon salut. Rien d'autre. Et maintenant, après avoir contemplé cela ensemble, frères et sœurs, après avoir laissé le Saint-Esprit nous sonder, pénétrer au-dedans du cœur orgueilleux et trouver les éléments de discorde, d'incohérence avec son évangile et sa parole, nous entendons la consolation, la déclaration de Jésus sur la montagne dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, verset 21. Heureux vous qui avez faim maintenant, parce que vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, parce que vous serez dans la joie. Heureux vous qui pleurez maintenant, parce que vous serez dans la joie. Nous continuons dans Jacques, le livre de Jacques, chapitre 4, verset 6. Et voilà, nous vivons à une époque aujourd'hui où l'iniquité s'est multipliée et la charité de plusieurs, l'amour de plusieurs se refroidit. L'amour réel de Dieu n'est plus visible, il disparaît petit à petit. Il n'est présent certaines fois que faiblement, comme une lueur dans certains cœurs. Et donc nous lisons dans Jacques chapitre 4 verset 6. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, pécheurs. Nettoyez vos mains et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. Sentez vos misères et soyez dans le deuil et pleurez. Que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. S'humilier devant le Seigneur, cela a toutes sortes de connotations. Et en l'occurrence, dans ce sujet-là que nous avons abordé aujourd'hui, il s'agit d'être prêt à accepter de faire les choses à la manière de la Bible et à accepter les conséquences qui s'ensuivent si nous adoptons l'activité missionnaire qui nous est décrite dans la parole de Dieu. Et cette activité missionnaire, l'apôtre Paul en parlait dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 Corinthiens chapitre 1, verset 19. Et voilà. Aujourd'hui, comment toucherez-vous le cœur d'un homme ou d'une femme par l'amour de Dieu? Comment les toucherez-vous? Et comment avez-vous touché vous-même? Comment ai-je été touché par l'amour de Dieu en Jésus-Christ? Examinons. Interrogeons-nous. Quel a été le chemin par lequel Dieu m'a amené à découvrir son amour, si je l'ai découvert? Cet amour qui me pousse à rendre par mon amour. L'apôtre nous le dit ici. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 19. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse de ce monde? Car tandis que le monde, par cette sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est une folie à l'homme charnel. La prédication ne fait aucun sens à l'homme orgueilleux, mais elle a beaucoup de sens aux humbles, à ceux qui sont prêts à s'approcher de Dieu. Approchons-nous de Dieu, à résister au diable. Est-ce que nous résistons au diable? Vous savez, c'est important de s'interroger, d'examiner. La parole de Dieu nous dit que nous devons nous examiner pour savoir si nous sommes véritablement dans la foi. Est-ce que je résiste au diable? Et si ma réponse est non, alors je sais ce qu'il me reste à faire. Parce que si je lui résiste, si je m'approche de Dieu et que je résiste au diable, alors il s'enfuira de moi. Si les anges me chantent des cantiques, si vous entendez la voix des anges chanter des cantiques dans vos cœurs, il ne faut pas que je résiste. Si les cantiques me parlent, d'une expérience amère, d'échec, mais de victoire en Christ et de réalisation de l'amour de Dieu. Je ne dois pas résister à cela. Mais la parole de Dieu nous appelle à changer, à sentir nos misères. À sentir. Le monde ne sent pas, l'iniquité est multipliée, vous ne sentirez pas, il ne sentira pas ses misères. Mais le monde n'est pas notre exemple. Nous sommes appelés à ne pas nous conformer au monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Et c'est à ce moment-là que toutes les choses dans la Bible prennent sens. Que nous examinons sincèrement. Que nous ne nous efforçons pas de trouver l'approbation des hommes autour de nous, mais que tout en cherchant à être la meilleure odeur possible pour eux et leur salut, à rester fidèle à tous les principes, toutes les lois et toutes les injonctions de la parole de Dieu. Nous sommes appelés à changer nos rires en pleurs. Et là, c'est très intéressant, frères et sœurs, parce que nous avons l'habitude de changer nos pleurs en rires. C'est la manière de faire du monde. Pour oublier les peines, nous cherchons la distraction. Mais l'apôtre Jacques, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous a dit quelque chose de complètement opposé à cela. Changez vos rires en pleurs. Cela veut dire que les distractions qui semblent soulager mon chagrin sont opposés à l'évangile. Dieu m'a dit de sentir ma misère pour de m'humilier, de changer mes rires en pleurs, de m'humilier pour que lui puisse m'élever. Et quand lui, le Seigneur de gloire, nous élève, alors frères et sœurs, nous pourrons être une odeur vivifiante donnant la vie. Ne voulons-nous pas, frères et sœurs, être une odeur vivifiante donnant la vie? Cela n'arrivera pas, à moins que nous nous humilions de la manière qui est prescrite dans Jacques chapitre 4, versets 4 à 7. C'est cela, la folie de la prédication. Parce que le cœur naturel déteste ce que Dieu prêche. Et donc, je n'ai pas terminé. Dans 1 Corinthiens toujours, chapitre 1, verset 22. Et là, vous verrez que l'expérience qu'ils avaient est en tout point similaire à la nôtre. Les Juifs, de leur temps, ce sont les adventistes de notre temps. Les Grecs, de leur temps, ce sont les incroyants de notre temps. Il n'y a presque pas de différence. Et il dit, « Tandis que les Juifs demandent des miracles et que les Grecs cherchent la sagesse, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. » Examinez, frères et sœurs, je vous en supplie. Si vous prêchez à un adventiste aujourd'hui qu'il ne, que l'Église de 17 millions ne fera pas partie d'un mouvement qui déclare avec un grand cri toute une majestueuse campagne d'évangélisation, ce sera pour lui un scandale. Ce sera pour lui, comme pour les Juifs, Christ crucifié. Vous savez, mon âme ne prend pas plaisir à dire ces choses. Il faut mourir pour pouvoir dire cela. Et que cherchent les Grecs? Que cherchent les Grecs? Ils cherchent la sagesse. Et qu'est-ce que la croix de Jésus-Christ pour eux? C'est une folie.
C'est ridicule.
C'est une belle histoire. Ça ne s'accorde pas avec la sagesse de l'homme intellectuellement charnel. Donc vous voyez que sur tous les aspects, sur tous les fronts, on ne peut pas se dérober à la réalité que la prédication de Dieu, qui n'est pas nécessairement uniquement par le pasteur, mais qui peut être par l'individu laïque qui prêche, non pas à la chair, mais qui délivre la parole de Dieu. C'est dans ce sens la prédication. C'est d'une manière ultime, la folie de la prédication vient de la chair et du pasteur. Mais quand le croyant a été nourri par cette prédication, il porte cette prédication en son cœur et le message qu'il aura à porter aux âmes qui l'entourent sera aussi la folie de la prédication. C'est juste une chose à préciser qu'il faut comprendre. Et donc, malgré ces deux obstacles, que ce soit chez les Juifs ou chez les Grecs, croyants ou incroyants, mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Et verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Donc, ce que nous avons vu aujourd'hui, et juste à l'instant, c'est que l'amour de Dieu en Christ pour nos âmes, il est précieux, il est riche, et il brise notre cœur. Jésus se révèle à nous dans son agonie à Gethsémané, à la croix, dans sa vie sur la terre, en tant que pèlerin et voyageur. Et nous le voyons, son cœur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis un ver. Notre Sauveur se sentait comme un ver. Il n'était plus rien. Il n'était pas glorieux aux yeux des hommes. Pour les disciples, Christ sur la croix, c'était l'échec total de leur vie. C'est ça vraiment la croix. Et c'est ça la folie de la prédication de la croix. Et donc ce Jésus qui vient à nous et qui se révèle à nous, nous devons espérer que les âmes pour lesquelles nous exerçons de tout notre cœur, si elles sont sincères, la prédication de la croix sera pour elles aussi la puissance de Dieu. Donc c'est un appel à ne pas renier la véritable puissance de Dieu, qui trouve si peu d'adeptes en ces derniers temps. Ne cherchons pas simplement l'acceptation, l'approbation pure et simple des hommes. Mais continuons, frères et sœurs, à puiser dans cet amour de Dieu qui se soucie de nous au point de venir dans les profondeurs, les ténèbres, de mon expérience, jusqu'à venir pleurer avec moi. Et quand je dis, Seigneur, et mes larmes, mets-les dans ta bouteille, est-ce qu'elles ne sont pas sur ton livre, Seigneur? Pourquoi, Jésus? Ô mon Père, je t'en supplie. Tu vois cette âme? La soif de cette âme? Jésus, aie pitié, je t'en supplie. Aide-moi. Il répondra à nos cris. Il a dit, heureux. Vous êtes heureux, vous qui pleurez, car vous serez consolés. Et dans Romains, chapitre 8, nous arrivons progressivement à la fin de notre méditation. Romains, chapitre 8, verset 19. Voilà ce soupir. Ce soupir, ce n'est pas juste le nôtre. Si vous avez le cœur qui soupire pour l'âme de vos compatriotes selon la chair, la création a ce soupir. Les feuilles voguent sur le vent, le soleil se couche lentement, mais la création attend. Et partout, nous voyons qu'elle souffre. Et nous voyons cette souffrance et nous disons, Jésus, je souffre comme ça aussi. Et nous lisons, en effet, la création attend, avec un ardent désir, que les enfants de Dieu soient manifesté. Car ce n'est pas volontairement que la création est assujettie à la vanité, mais c'est à cause de celui qui l'y a assujettie, dans l'espérance qu'elle sera aussi délivrée de la servitude de la corruption, pour être dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Car nous savons que jusqu'à présent, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et non seulement elle, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre cœur, de notre corps. Car nous sommes sauvés en espérance. Or, l'espérance que l'on voit n'est plus espérance. En effet, comment espérerait-on ce que l'on voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, c'est que nous l'attendons avec patience. Et même aussi l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses, car nous ne savons ce que nous devons demander pour prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs qui ne peuvent s'exprimer. La création attend, elle soupire. Et parfois, vous ne savez pas, vous n'avez rien à dire à Dieu, et vous n'avez que des larmes à verser. Mais Jésus comprend, parce que c'est exactement son expérience. Et il veut que, dans cette expérience que nous faisons, nous le trouvions. Et si nous avons changé nos rires en pleurs et que ces pleurs ruissellent comme sur les joues de Jérémie. Ils ruissellent comme les ruisseaux d'eau et qu'il n'y a plus rien. Nous semblons perdre goût à la vie. Jésus est juste là, à côté de nous. Et il dit, moi aussi j'ai pleuré. La souffrance qui est au fond du cœur et à laquelle personne ne répond, moi je sais. Et s'il n'y a aucune corde sensible sur la terre, moi je comprends. Dans Message choisi, volume 1, page 136. Paragraphe 3. Nous lisons. L'Église doit renaître pour avoir, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, une espérance vivante, un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Quand elle deviendra consciente de ce qu'elle doit faire dans notre monde, les membres éprouveront les douleurs de l'enfantement pour les âmes qui ignorent Dieu et qui, en raison de leur ignorance spirituelle, ne peuvent comprendre la vérité présente. Un esprit d'abnégation, de sacrifice, doit être tissé avec notre expérience entière. Nous devons prier avec vigilance afin qu'il n'y ait point d'inconséquences dans nos vies. Nous ne devons pas manquer de montrer à ceux qui nous entourent ce que nous comprenons, à savoir que prier avec vigilance veut dire mettre notre vie en accord avec nos prières, pour qu'elles puissent obtenir de Dieu leur exaucement. Les membres appartenant à une Église active, agissante, expérimenteront qu'ils portent le joug de Christ et qu'ils tirent le char avec lui. Donc voilà les douleurs de l'enfantement. Ça fait aussi partie de notre activité pour les âmes. C'est une activité dans laquelle nous avons Jésus pour compagnon. Si nous nous humilions et que nous le laissons nous élever, et il sera pour nous notre force, et il nous consolera. Il nous dira, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dans Jérémie chapitre 31, versets 8 à 9, nous avons ces paroles. Voici, je les ramène du pays du nord et je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle qui enfante. Ils reviennent ici en une grande assemblée. Ils viendront avec pleurs et supplications. Je les conduirai, je les mènerai au torrent des eaux par un droit chemin où ils ne broncheront pas. Car je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. Nation, écoutez la parole de l'Éternel, annoncez-la dans les îles lointaines, dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme un berger son troupeau. Car l'Éternel rachète Jacob et le retire des mains d'un plus fort que lui. Voilà. Puisse cette méditation, ces méditations, nous accompagner. Et puisse le Seigneur nous rappeler par son esprit l'expérience qui était exprimée par Jérémie, cette expérience qu'a également faite notre Seigneur et Sauveur lorsque, à Gethsémané et à la croix, il souffrait les choses de Lamentations, chapitre 1, verset 14. Le joug de mes iniquités est lié par sa main, elles sont entrelacées et pèsent sur mon cou. Il a fait fléchir ma force. Le Seigneur m'a livré à des mains auxquelles je ne puis résister. Jésus a porté en lui nos péchés en son propre corps. C'est-à-dire que nos péchés étaient placés dans sa chaîne d'ADN. De sorte qu'il pouvait dire lui-même que c'était ses iniquités. Et c'est pour cela qu'il dit que mes péchés sont en si grand nombre que je ne puis lever la tête. Il continue, le Seigneur a renversé au milieu de moi tous mes hommes vaillants. Il a convoqué contre moi une assemblée pour mettre en pièces mes jeunes gens d'élite. Le Seigneur a foulé au pressoir la Vierge, fille de Judas. C'est pour cela que je pleure et que mon œil se fond en eau, car le Consolateur qui ranimait mon âme s'est éloigné de moi. Mes enfants sont dans la désolation parce que l'ennemi a été le plus fort. Sion étend ses mains et personne ne la console. L'Éternel a ordonné aux ennemis de Jacob de l'entourer de toutes parts. Jérusalem est devenue parmi eux comme un objet d'horreur. Sont les douleurs de l'enfantement. Et Jésus a participé à ces douleurs pour qu'on puisse avoir une espérance au milieu des douleurs. Et les douleurs, des fois, cela prend du temps. Il arrive que des femmes, que l'accouchement dure plusieurs jours. Et c'est cette comparaison que Dieu a donnée pour ses enfants qui portent son joug et qui tirent le char avec lui et qui ressentent la valeur des âmes. C'est ce que nous avons lu dans Jérémie chapitre 30. Nous y revenons pour conclure. Il dit, pourquoi vois-je tout homme les mains sur les reins comme une femme en travail? Cette expérience commence aujourd'hui et elle ne va faire que s'empirer. Quand le temps de grâce prend fin, c'est là que elle trouve sa entière signification. Mais aujourd'hui déjà, puissions-nous ne pas nous décourager lorsque les hommes se marient, donnent en mariage, bâtissent et plantent des vignobles et que notre expérience se retrouve dans un tel contraste. C'est comme Dieu l'a prophétisé. Mais il nous dit aussi que celle qui avait des enfants est maintenant misérable et celle qui était stérile deviendra glorieuse. Et qu'elle sera comme un joyau sur sa couronne, à jamais et pour l'éternité, la sienne, son Église, sa Sion. Que le Seigneur vous bénisse tous et puisse-t-il nous aider à marcher comme lui-même a marché. Amen.